tous, Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons étudier Matthieu chapitre 5, verset 8, s'il vous plaît, nous levons. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, je voudrais vous rappeler que dimanche, c'est le 31. Et en Côte d'Ivoire, il y a les élections présidentielles et je vous demanderai de prier pour cela parce que c'est très chaud là-bas. Et voilà, il faudrait qu'on prie pour que ça se passe dans la paix et en particulier que nos frères et sœurs soient protégés et que, voilà, que ça se passe bien. Que, de toute façon, la volonté de Dieu sera faite. Celui qui sera élu, ce sera celui que Dieu voudra mettre en place. Mais ce qu'il faut demander, c'est que ça se fasse dans la paix. Pour nos frères et sœurs en particulier, et puis voilà, et pour tout le monde aussi. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 8, une belle béatitude. Il est question, tout de suite, quand on lit une telle chose, mais alors, de qui ceux qui ont le cœur pur se distinguent-ils? Quand Moïse était sur la montagne, vous vous souvenez, pour recevoir les 10 commandements, eh bien, personne ne pouvait approcher de la montagne parce que personne n'avait le cœur assez pur. David, plus tard, il avait conscience de l'impureté de son cœur, alors il priait, il demandait au Seigneur, « Ô Dieu, enseigne-moi la sagesse dans le secret de mon cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Vous vous rappelez de ça? Et un jour, Jésus se trouvait en compagnie de religieux, les pharisiens, et il leur dit, « Vous, les pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous purifiez, mais votre intérieur est rempli de rapines et de méchanceté. Vous êtes semblables à des sépulcres blanchis. En dehors, ça a une belle apparence, mais au-dedans, c'est plein d'ossements de mort, d'impuretés de toutes sortes. » Frères et sœurs, ce que Jésus désire, c'est que notre cœur soit pur. Même si notre apparence est un peu celle de Cendrillon. Vous connaissez Cendrillon, hein? Les mains sales, elle est pleine de suie, pleine de crasse. Cendrillon. L'apparence de Cendrillon, c'était celle d'une personne sale, mais c'était parce qu'elle était soumise à toutes sortes de travaux sales qu'elle était sale. Il n'y a pas très longtemps, un médium évangélique m'a accusé de ne fréquenter un homme d'affaires que pour son pognon, accusant, disant que si je tournais autour de lui, c'était parce qu'il me payait des beaux voyages, parce qu'il me payait des beaux restos, des beaux hôtels, que j'étais un vendu et que j'hésitais pas même à me vautrer dans le stupre. Non, parce qu'il n'a pas dit comme ça, enfin, dans la débauche, voilà, dans la débauche, carrément, hein, pour pouvoir lui soutirer encore plus d'argent, etc. Alors, c'est vrai que je peux avoir l'air d'un ramasseur d'argent. C'est vrai que je peux avoir l'air d'un profiteur. Mais je dis devant Dieu, mes frères et sœurs, que mon cœur est pur. Dieu le sait. Je le sais. Dieu le sait. Alors, que le cœur de ce petit médium juge, il est plein d'impureté lui-même. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, tout est impur pour ceux qui sont impurs. Il juge l'apparence. Avec son cœur souillé. Et Dieu le sait, mes frères et sœurs, Dieu le sait. Vous savez, on a taxé Jésus de mêmes choses, on a dit à son sujet les mêmes choses. Qui est pur? De qui Jésus parle-t-il? Qui peut-on distinguer en disant, là, ça c'est quelqu'un de pur, ça c'est quelqu'un d'impur? Cendrillon, elle se salissait en travaillant, et il peut arriver qu'on se salisse. Aux yeux des superficiels, il peut arriver qu'on se salisse parce qu'on aime une personne, on veut la conduire au Seigneur. Alors j'accepte, j'assume le fait d'avoir une apparence impure. Ok, d'accord, d'accord. Mais je sais que mon cœur est pur. C'est ça l'essentiel. Mes frères et sœurs, c'est ça qui compte, c'est l'essentiel. Un laboureur, un éboueur, un cordonnier, un forgeron peut être sale, sentir mauvais, mais son cœur peut être un parfum agréable à Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, Si cet homme, si cette femme qui a une apparence sale médite la parole de Dieu, met en pratique la parole de Dieu, si elle se salit au travail pour pouvoir gagner les âmes, ça c'est une bonne chose, Dieu le sait. Il n'y a que Dieu, vous et ceux qui vous aiment qui savent que vous êtes purs. Les autres, tout est impur pour ceux qui sont impurs. Ils soupçonnent toujours le mal parce qu'il n'y a pas l'amour dans leur cœur puisqu'il y a de la souillure. Ça se trouve dans Tite 1.15. Ils me disent, mais pourquoi tu nous parles de ça? Je vous parle de ça parce qu'on est en train d'étudier les béatitudes. Et dans les béatitudes, il y a heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est cela? Une personne qui a le cœur pur, qu'est-ce que c'est? C'est l'intérieur, le centre de vous-même. Frères et sœurs, celui qui a le cœur pur, c'est celui qui regarde à l'essentiel. Paul, il acceptait d'être faible avec les faibles. Ça veut dire quoi être faible avec les faibles? Pour pouvoir gagner des faibles pour le royaume de Dieu. C'était ça son but, c'était l'essentiel. Gagner des gens pour le royaume de Dieu. Il regardait à l'essentiel. Et c'est pourquoi il ne s'arrêtait pas au jugement des gens impurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? C'est ça l'essentiel, mes frères et sœurs. La loi du cœur, c'est la loi des intentions. C'est ce que je vous disais dans mes prédications précédentes. Les intentions que les autres vous prêtent n'ont aucune valeur, aucune. L'apôtre Paul dit, je ne me laisse juger par personne. Ce qui est important, c'est que Dieu me juge. Je sais que Dieu me juge. Je sais comment Dieu me juge. Le regard sur vos tâches apparentes, ça ne doit pas vous gêner, ça peut vous chagriner pendant un temps, pendant un moment, on s'explique, l'air, et puis si ça ne marche pas, si vraiment ils ne veulent pas, on passe à autre chose, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut quand même pas se focaliser sur une ou deux personnes qui vous jugent comme étant impures, alors que tant de gens ont besoin de votre pureté dans le monde. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », vous savez, ce que la Bible appelle une personne au cœur pur, c'est celui qui a les mains innocentes. On trouve ça dans le psaume 24.4. C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est celui qui ne jure pas pour tromper. Cendrillon, elle était rejetée, elle était repoussante, elle était crasseuse, elle puait, tout ça. Mais ses mains étaient innocentes. C'est ça qui compte dans votre vie. Je ne sais pas ce qui vous arrive, je ne sais pas ce qui peut vous arriver, mais si Jésus dit ça, c'est pour que vous puissiez être réconforté. Si vous êtes accusé de quelques impuretés, c'est pour cela. Dieu vous dit, maintenant je vois ton cœur, je sais quel est ton cœur. Vous voyez, une personne au cœur pur, elle est libre dans sa relation avec Dieu, elle est libre avec les gens au cœur pur. Et mes frères et sœurs, c'est ça l'essentiel. Être bien, être tranquille avec Dieu et être tranquille avec les gens qui ont un cœur pur. Le reste, ma foi, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Heureux ceux qui ont un cœur pur. La personne au cœur pur, elle a des motivations pures, et cette personne pure, au cœur pur, qui a des motivations pures, elle sait que ses motivations sont pures. Elle n'est pas en train de divaguer. Elle sait très bien pourquoi. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Peu importe ce que les gens pensent. Bon, il ne faut pas faire exprès de choquer les faibles. Il ne faut pas faire exprès. Mais en général, ce n'est pas les faibles qu'on choque, c'est les malfaisants. Alors la question, elle est, qui d'entre nous peut dire que sa vie est pure? Qui peut dire « j'ai rien à cacher » Qui peut dire ça? Mes frères et sœurs, on est tous tentés, un jour ou l'autre, de porter un masque, de jouer un rôle un peu différent selon les occasions. On est tenté, mais ce n'est pas forcé qu'on tombe dans cette tentation. Et même si on tombe dans cette tentation, on peut encore s'en repentir et puis demander pardon à Dieu et à ceux qu'on a offensés. Mais à qui ça n'est jamais arrivé? Vous savez, la distance qu'on met entre soi et la réalité, c'est ça l'hypocrisie. Certains sont tellement emberlificotés dans leurs mensonges qu'ils ne savent plus distinguer où est le vrai de la comédie. Ils ne savent plus. Alors quoi qu'il en soit, il faut se dire que tous les hommes, tous, absolument tous, il n'y a que Jésus, en fait, qui a vraiment eu toute sa vie, tout le temps, sans cesse, un cœur absolument pur, dépourvu de toute tromperie. Que Jésus. Jésus dit que seuls ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Alors, on peut se poser la question, mais alors, qui verra Dieu? Qui verra Dieu? Qui n'a jamais porté un masque? Qui n'a jamais succombé à la tentation de dire un mensonge pour se sortir d'une petite affaire ou d'une grosse affaire gênante? Eh bien, je vais vous dire la vérité. Ceux qui verront Dieu, parce que ça c'est au futur, heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. Ceux qui verront Dieu dans la réalité, ils le voient déjà maintenant par la foi. C'est pas qu'une jolie phrase, c'est pas qu'une pirouette spirituelle, c'est pas qu'une glissade d'orateur. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. On se sait aimé de Dieu par la foi. On se sait pardonné par Dieu par la foi. On se lève le matin et on va de l'avant par la foi. On va de l'avant par la foi, tout le temps par la foi. On sait que Dieu nous a purifiés à la croix par la foi. On sait qu'il nous a rétablis dans notre position si on a confessé notre péché par la foi. On chasse les démons par la foi. On guérit les malades par la foi. On témoigne par la foi. On prêche par la foi. Et on voit Dieu par la foi. Est-ce que tu reconnais Dieu dans toutes tes voies? Heureux celui qui reconnaît l'Éternel dans toutes ses voies, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que tu vois Dieu dans ta vie? Ce n'est que par la foi. Que par la foi. Tu crois que tu es purifié? C'est par la foi. Alors, si tu crois que tu es purifié par la foi, tu crois que tu es pur. Mais c'est par la foi. C'est pas par la vue. La vue, elle peut te dire, oh, t'es quand même un peu crade, hein? Heureux es-tu si tu as le cœur pur par la foi. C'est par la foi que tu es purifié. Par la foi. Tout ça, c'est par la foi, mes frères et sœurs. Si tu es accusé et que tes accusateurs disent vrai, parce que ça peut arriver, que tu aies fait une bêtise, alors sois humble, reconnais ta faute, humilie-toi, bon, puis dis-leur que Dieu t'a pardonné. Puis regarde-les. Regarde leur réaction. Et tu vas voir. Si ce qu'ils cherchent, c'est vraiment la réconciliation, ou ce qu'ils cherchent, c'est vraiment à te gêner, à te mettre dans l'embarras, à t'humilier, à te monter sur la tête. Regarde leur réaction. S'ils ne croient pas que Dieu t'a pardonné, c'est qu'ils ne sont pas purs. C'est qu'ils ne sont pas purs. L'essentiel, c'est la relation avec Dieu. L'essentiel, c'est la relation que tu as avec les gens purs. Ta relation avec les impurs, la Bible dit dans Jude 23 qu'elle doit être mêlée de pitié et de crainte. Parce qu'ils existent. Notre relation, elle doit exister avec ces gens-là. Mais mêlée de pitié et de crainte. Et c'est ça qui nous amène à la béatitude suivante. Heureux les artisans de paix. Les artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans d'autres versions, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Artisans de paix, ça veut dire la réconciliation. On fabrique la paix. La réconciliation, c'est ce qui découle de la pureté du cœur. Si on a la pureté du cœur, on cherche à produire la paix. Mais Jésus nous dit par ailleurs que dans la mesure du possible, soyez en paix avec tout le monde, mais ce n'est pas toujours possible. Parce que la paix, c'est une question d'amour, et l'amour, c'est une histoire à deux places, au minimum. Donc, tout le monde ne veut pas la paix. Vous avez des gens qui ne veulent pas la paix. Ils aiment bien les embrouilles. L'imagination, mes frères et sœurs, c'est ça qui constitue une des causes les plus fréquentes de conflits, les machinations. Jésus, il montre, en disant ça, qu'il veut que chacun de ses disciples, de ceux qui se disciplinent, de ceux qui font vraiment, qui cherchent à faire sa volonté, qui renoncent à leur propre vie pour faire ce que lui veut, eh bien, ce qu'il veut, c'est que chacun soit un artisan de paix, dans sa famille, dans l'Église et dans la société en général. Ok, ça semble tout à fait juste, c'est vrai. Pourtant, un peu plus tard, Jésus, notre modèle, dit que lui-même, il n'est pas venu pour apporter la paix. Ça fait drôle, hein? Il dit, je suis venu pour séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Il dit, et cela fera que l'homme aura pour ennemi numéro un les gens de sa propre maison. Il dit, c'est moi qui suis venu apporter ça. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter ça. Matthieu 10, 34, 36. Ah, mais alors on ne comprend plus rien. Ah, mais alors les païens ont raison, la Bible elle se contredit tout le temps. Mais non, mes frères et sœurs, elle ne se contredit pas. C'est l'enseignement. Dans l'enseignement de Jésus, il ressort clairement que nous ne devons jamais chercher le conflit, ni en être responsable. Mais vous ne pouvez pas empêcher le conflit. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. La vérité n'aime pas le mensonge et vice-versa. L'eau n'aime pas le feu et c'est comme ça. Et il faut qu'il y ait des scandales. Ça doit arriver, mais malheur à celui par qui ça arrive. C'est ça le problème. Il ne faut pas que ça arrive par vous. C'est ça la chose. Vous comprenez? Nous devons rechercher activement la paix. Et, dans la mesure où ça dépend de nous, de vivre en paix avec tout le monde. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, par Jésus-Christ, Dieu s'est plu à réconcilier toutes choses avec lui-même, faisant la paix par le sang de la croix. Est-ce que tout le monde est en paix avec Dieu? Non. Dieu a fait la paix, il veut être réconcilié avec tout le monde, mais tout le monde ne veut pas de sa paix. Et s'ils ne veulent pas la paix du Père, est-ce qu'ils vont vouloir la paix avec les enfants du Père? Bon, ils ne veulent pas la paix du Père, la paix Père. C'était Camélia qui dit, et il y avait une femme en Suisse qui priait, « Père, je te bénis Père pour la paix Père. » Ça me revient à l'idée. Après, elle continuait, elle disait, « Père, je te bénis Père pour la vie Père. » Pour la vie Père. Alors, elle bénissait Dieu pour la vie Père. Ça faisait drôle. Quand Camélia, « Alors, qu'est-ce qu'elle dit ?» La paix. Dieu s'est plu à réconcilier toutes choses avec lui-même par Jésus-Christ en faisant la paix par le sang de la croix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je suis pas tellement surpris d'entendre que Jésus dit que celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé au fils de Dieu pour que cette paix arrive? Le vrai disciple de Jésus, le vrai enfant de Dieu, fait ce que le Père fait. C'est-à-dire, il faut savoir que le diable intervient comme un fauteur de troubles. Et maintenant, la paix, c'est pas à n'importe quel prix. Parce que les gens qui ne veulent pas la paix sont des victimes de l'ennemi qui est un fauteur de troubles. Et il ne faut pas que la paix soit à bon marché, parce que c'est cet ennemi-là qu'il faut vaincre. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, je n'ai pas lutté contre ce médium qui m'accuse. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière. Et il ne faut pas que ça coûte rien du tout. Dieu a fait la paix à un prix très élevé, celui du sang de Jésus à la croix. Et à notre niveau, faire la paix, ça ne doit pas être une chose facile. Dieu ne fait pas grâce à bon marché. Et il faut aussi dénoncer la paix quand c'est une paix à bon marché. Vous savez, par exemple, ces espèces de grandes rencontres œcuméniques, alors on dirait que tout le monde est en paix, alléluia, alléluia, mais c'est à bon marché, parce qu'en fait, c'est juste pendant quelques heures, on est en train de louer le Seigneur, on prend l'hostie ou la Sainte-Cène, et puis après on retourne chez soi avec nos idées bien arrêtées, et puis de toute façon, et puis voilà, mais c'est pas vraiment la paix. L'appel doit être basé sur Dieu, sur sa parole. Sinon, c'est pas vrai, c'est pas authentique. Dire que la paix est établie alors qu'elle n'est pas établie, c'est faire œuvre de faux prophètes. C'est pas bon. Alors, présenter des excuses à ceux qu'on a offensés, ça doit pas être facile. On doit pas aller vers le frère. Bon, ben, j'ai dit une bêtise, hein, ben, tu me pardonnes, hein, bon. Non, ça doit pas être comme ça. Reprendre une personne qui nous a blessés, ce n'est pas une chose facile, c'est une chose gênante. C'est gênant de faire ça. C'est terrible. Et il y a même des situations tellement terribles qu'il faut refuser le pardon à une personne jusqu'à ce qu'elle change de comportement. La Bible nous enseigne que nous pouvons retenir les péchés de certains pour une raison. La vraie paix, le vrai pardon, c'est des choses qui coûtent cher. Dieu ne pardonne que si nous nous repentons. Jésus dit de faire de même. Il dit, si ton frère vient à t'offenser, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Matthieu 18, 15, n'est-ce pas ce que Jésus dit? S'il se repent. La question est, comment pouvons-nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux qui nous offensent et qui ne nous demandent pas pardon, qui ne reconnaissent pas qu'ils nous ont offensés? Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Eh bien, il ne faut pas entretenir de conflit avec cette personne-là. Il faut la remettre entre les mains de Dieu. Il faut laisser Dieu agir. Il faut laisser Dieu agir. Nous, dans notre cœur, on pardonne. Je ne lui en veux plus, je n'entretiens pas le conflit, je laisse Dieu. Je n'entretiens pas le conflit. Je n'entretiens pas de rancune, je n'entretiens pas de haine, je n'entretiens pas de ressentiment. Je laisse Dieu agir. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu va faire. Moi, je ne peux pas faire. Tout est possible à Dieu. Ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. Jésus, lui, il nous a pardonné il y a 2000 ans, alors que nous n'étions même pas nés. Il nous a pardonné avant même que nous ayons péché. Et il veut que nous fassions la même chose. Il a fait l'acte de pardonner. Maintenant, la réalité du pardon, c'est-à-dire quand le pardon est vraiment accordé d'une façon réelle, la communion est rétablie. Mais le pardon, il est déjà offert, il est déjà donné. Vous comprenez? Si quelqu'un vous a offensé, il ne reconnaît pas qu'il vous a offensé, il vous rejette, il dit que c'est vous qui avez eu tort, et que ceci, et que cela, puis c'est des histoires, c'est un infini plus. Pardonnez, même si la réconciliation n'est pas encore là, Dieu va le faire de façon à ce que ça arrive. Vous voyez? Cela fait de nous des disciples obéissants de faire des choses comme ça, qui sont obéissants aux règles du royaume. Et quand on fait ça, on lave nos cœurs de toute souillure. Parce que si on ne fait pas ça, les personnes qui nous ont offensés, si on ne pardonne pas, comme Jésus a fait il y a 2000 ans, même avant que nous ayons péché, si on ne pardonne pas, eh bien on a une souillure dans notre cœur. C'est nous qui sommes importants, c'est vous qui êtes importants. C'est vous qui devez être pur. Si l'autre ne veut pas, tant pis, ça le regarde, il faut tout faire pour qu'il soit pur, mais s'il ne veut pas, vous, vous devez l'être. Vous devez être en paix. Vous devez laver votre cœur de toute souillure, de tout ressentiment, de tout ça. C'est pardonner. Maintenant, je remets ça entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse de nouveau y avoir une communion, une relation avec la personne. Mais si elle ne le veut pas, basta, que voulez-vous faire? Basta, il y a des milliards de personnes qui attendent votre amour, le don de vous-même, votre cœur pur, vos miracles, et vos sourires et tout ça. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ça, quand on est là? Eh bien, nous allons travailler en atelier comme un artisan. Voilà l'histoire de l'artisan. Quand j'étais jeune, j'ai fait un apprentissage et j'ai travaillé ensuite comme ensemblier décorateur. Nous avions un atelier à Lausanne, sur les hauteurs de Lausanne, à Béthusie. Et dans cet atelier, on faisait des très belles choses. On faisait des meubles, on faisait des tentures, on préparait des choses magnifiques, des fauteuils, des canapés, des trucs extraordinaires, de style de toutes sortes. C'était fantastique. Et on faisait tout ça dans un atelier loin de ceux pour qui c'était fait. Voilà ce que c'est un artisan. Un artiste. Et nous sommes des artistes du Seigneur. Nous sommes des artisans de paix. Nous fabriquons cette paix dans notre atelier, c'est-à-dire à notre autel de prière, dans l'intercession. On prie pour ceux qui nous maudissent, on prie pour ceux qui disent du mal de nous, on prie pour ceux qui racontent toutes sortes de faussetés sur nous, on prie pour eux, on intercède, on exerce notre pouvoir pour modifier les choses, pour les rendre plus belles. On se fait des fauteuils, des fois, dans un état épouvantable. Eh bien, on décollait les parties, on nettoyait, on recollait, on reteintait, puis on les rendait plus belles. Et c'est ça qu'on doit faire, nous, dans notre atelier, avec toutes ces personnes qui sont un petit peu bizarres, et qui ne sont pas très belles dans leur cœur, dans l'apparence aussi, et on nettoie, on purifie. Mais un jour arrive où on devait livrer quand même le meuble. Alors on allait chez le client avec le meuble, et on était tout contents. Nous, on était sûrs de nous, on était sûrs que c'était beau. Alors, tôt ou tard, vous aussi, vous allez arriver au point où vous pourrez livrer à l'intéressé ce que vous avez travaillé dans votre atelier d'artisan de paix. Vous comprenez bien, frères et sœurs? Et vous pourrez ainsi procurer la paix. Mais si l'intéressé ne trouve pas votre fauteuil à son goût, hein, si l'intéressé ne résiste encore, ne trouve pas encore que c'est bien, que c'est comme il faut, que c'est juste, que c'est... Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut retourner en atelier avec la paix dans le cœur, sachant que vous, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous voyez? C'est ça qui est l'essentiel. C'est que vous sachiez que vous avez fait tout, vous avez travaillé honnêtement dans votre atelier. À Béthusie, on avait quelques clients comme ça, difficiles. On apportait un fauteuil, ou n'importe quoi, je dis un fauteuil, parce que voilà, c'était très souvent des fauteuils. Et ceux qui discutaient, qui étaient jamais contents, en général, c'était les moins riches. On a compris pourquoi au bout de quelques temps, vous savez, on a compris. Ils n'étaient pas contents, alors on était obligé de ramener le fauteuil en atelier. Simone, elle rigole, elle a compris. On ramenait le fauteuil en atelier. Des fois, on ne faisait même rien du tout, on le rapportait 15 jours après. Vous savez pourquoi ils faisaient les difficiles? Parce que on arrivait avec le fauteuil, mais ils n'avaient pas de quoi payer. Ils ne voulaient pas payer parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer. Ils étaient embêtés. Alors, ils préféraient dire que c'était nous qui étions dans le tort, que ce n'était pas bien, qu'il y avait un clou qui était de travers ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, qu'il y avait un pli, un machin. Tout. Alors, on ramenait ça en atelier et puis on leur laissait le temps, en fait, d'économiser pour avoir l'argent pour nous payer. En fait, c'est ça la noblesse. Hein, ce n'est pas de dire « Ah bon, vous n'avez pas les moyens de payer ?» Vous savez, comme des gros arrogants là, qu'on connaît des fois. Non, pas du tout. On l'a, ah ben oui, madame, vous avez tout à fait raison. On retourne à l'atelier, on s'en foutait, on savait bien. De toute façon, si elle ne nous payait pas, on gardait le fauteuil, puis à la limite, on le revendait. Hein, je veux dire. Enfin, bon. Mais voilà. Donc le client, au bout de 15 jours, on lui ramenait, même des fois, on n'avait rien fait du tout. Et il payait. Puis il était très content, c'était parfait. Alors, dans la mesure du possible, vous voyez, il faut être très diplomate. Dans la mesure du possible, soyez en paix avec tout le monde. Mais surtout, soyez en paix avec vous-même. C'est ça l'essentiel. Sachant que votre cœur est pur, que vous avez fait votre possible, et même l'impossible, pour procurer la paix, que vous avez, parce que vous ne pouvez pas procurer la paix si vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas procurer la paix que vous n'avez pas. Alors, vous avez tout fait pour procurer la paix que vous avez à ceux qui ne l'ont pas. Mais souvenez-vous qu'ils n'ont peut-être pas de quoi la payer eux-mêmes. Alors soyez compatissants. Ainsi vous agirez comme Dieu le veut, comme votre Père le veut. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel, mes frères et sœurs? Mais bien sûr que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas d'être en paix factice avec les gens de mauvaise volonté. L'essentiel, c'est que vous-même, vous fassiez ce qui plaît à Dieu. C'est ça qui compte. Le reste. Vous savez, demain, on va à l'enterrement de la sœur Molenda. Elle a 75 ans, elle est partie vers le Seigneur après des souffrances pendant une année. Elle s'est cassé quelque chose, ils l'ont mis à l'hôpital, ils l'ont opéré. Elle a attrapé une maladie, comment on appelle, voilà, nosocomiale. C'est l'horreur, elle a souffert, enfin c'est épouvantable et tout. Elle a vécu des choses terribles dans sa vie. Elle a vraiment vécu des choses terribles dans sa vie. Mais l'essentiel, c'est quoi? Ben qu'elle est avec Jésus maintenant, vous comprenez? C'est ça l'essentiel. À la limite, le reste, on s'en fout. Frères et sœurs, mais c'est pas grave. Il y a une chanson qui dit « T'en fais pas bébé, tout ça, c'est pas grave. » C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez en paix avec Jésus. Vous qui m'écoutez, même si vous pensez que j'ai tort, ce qui est important, c'est que vous soyez sûr que vous êtes en paix avec Jésus. C'est ça qui est important. Si j'ai tort, ben tant pis. Je suis sincère. Et si je suis dans l'erreur, je suis sincère. Dieu me le montrera. Il n'y a pas de problème. Des fois, il suffit d'un peu de temps. Vous comprenez, mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est que vous-même, vous fassiez ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que votre cœur soit pur et que vous procuriez la paix dans la mesure de vos possibilités. Il connaît votre cœur, il sait ce que vous faites, il sait ce que les autres font, il sait tout ça. C'est ça l'essentiel, soyez dans la paix et procurez la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus pour ces quelques mots que j'ai pu partager avec mes frères et sœurs. Merci pour la profondeur de tes paroles dans cette béatitude. Je suis sûr qu'il y a encore tellement de choses à trouver, tellement de choses à dire, mais ce soir on va arrêter là et on va continuer encore les jours suivants à étudier ces choses. Mais c'est tellement profond, tellement riche, tellement merveilleux. Seigneur, nous n'avons que des louanges dans notre cœur, te remercions pour nous montrer, dans ton amour, de nous montrer comment nous comporter, comment faire, comment vivre, comment nous réconforter devant toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.